Merci, prenez place. Madame la présidente du conseil d'administration de l'Institut, mesdames et messieurs ici présents et celles et ceux qui nous écoutent dans les 30 points de retransmission à travers la France, bonsoir. C'est un honneur et une joie d'accueillir ici Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po. Depuis notre dernier lundi, le 11 février dernier, notre institut a multiplié les initiatives, se déployant à travers ses sessions, ses séminaires et ses missions à l'échelle internationale, nationale aussi bien que territoriale. J'éviterai d'énumérer une à une chacune des activités engagées par l'Institut pour insister sur les efforts déployés pour rayonner à chaque échelon. Comme vous êtes, cher Bertrand Badi, aussi prolifique que notre Institut est actif, j'éviterai de la même manière l'énumération exhaustive de vos ouvrages, une trentaine, je crois, à ce jour, et des éminentes fonctions que vous avez exercées. Professeur des universités à Sciences Po depuis 1990, directeur du cycle Relations internationales à Sciences Po depuis 1999, vous avez formé tant et tant d'étudiantes et d'étudiants, parmi lesquels se trouve un grand nombre de nos auditeurs ce soir ici à Paris et en province. Vous avez dirigé les presses de Sciences Po pendant 10 ans jusqu'en 2003. Vous avez présidé le jury de l'agrégation en sciences politiques en 2013. Bref, vous impressionnez vos étudiants par votre probité intellectuelle et par le courage d'assumer une vision du monde qui fait débat. Votre analyse systémique des grands mouvements qui traversent le monde exerce désormais une influence considérable. Vos anciens élèves sont pour beaucoup des décideurs publics et privés que l'IHEDN a pour mission d'éclairer en leur apprenant surtout, autant que faire se peut, à penser la complexité du monde. Je ne doute pas que ce soir, vous saurez nous éclairer et surtout provoquer la réflexion. Le titre de votre dernier ouvrage est à lui seul une invitation à décentrer notre point de vue initial, à remettre en cause nos certitudes les plus ancrées, à penser autrement. Quand le Sud réinvente le monde, essaie sur la puissance de la faiblesse. Vous y rappelez notamment que dans ce monde en transformation, les enjeux sociaux comptent davantage que les enjeux de puissance. Vous déplacez ainsi les lignes habituelles de la réflexion stratégique. À ce titre, maïeuticien d'idées nouvelles et de nouveaux paradigmes d'explication, vous êtes ici le bienvenu. Dans cet institut appelé à repenser le contexte stratégique global pour notamment permettre à l'action militaire d'anticiper sa réponse aux risques et aux menaces qui émergent. La menace ne vient plus du rival, mais de la possible décomposition, dites-vous. Vous nous invitez à porter le regard ailleurs, non plus sur la ligne bleue des Vosges, à l'instar du prince westphalien, mais sur les risques de déstabilisation sociale des pays du Sud. Le sujet du jour et la désoccidentalisation du monde, formule percutante, qui devrait nous inviter à nous extraire de nos tropismes, à nous défaire de quelques mauvais plis et à nous extraire de notre confort. Votre intervention, dont je ne doute pas qu'elle sera aussi instructive que détonnante, devrait ainsi nous inciter à sortir du piège de la mémoire westphalienne qui nous empêche, dites-vous, de penser l'altérité. Dans la perspective élargie de la construction d'une défense européenne, votre analyse sur la désoccidentalisation du monde est de nature à nous questionner utilement. Je vous laisse donc la parole en vous remerciant très chaleureusement, monsieur le professeur, pour votre présence ici parmi nous.
Madame la Présidente, chère Nicole, messieurs les directeurs, monsieur le préfet, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord avoir un mot exprimant l'émotion qui est la mienne ce soir. Parler devant l'amphifoche, c'est toujours quelque chose en même temps d'exaltant et de puissamment émouvant. Quand il est plein, on se demande ce qui se passe. Eh bien, mon souhait ardent, c'est que vous ne soyez pas déçus, parce que décevoir tant de monde en même temps, même dans une longue carrière, ça ne m'est pas arrivé, donc le risque est élevé. Le risque est élevé, mais la passion est là. La passion qui me relie à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Ce n'est pas la première fois, tant s'en faut, que j'interviens devant l'Institut. Et parce que nous sommes animés d'une même interrogation forte, mais dans quel monde sommes-nous ? D'ailleurs, c'est curieux, ce monde, on n'arrive pas à le nommer. Quand j'étais jeune, il y a très peu de temps, je vous en prie, on savait qu'on était dans un système bipolaire. Et les autres étaient à la périphérie, la marge, le tiers-monde, le tiers-État, les citoyens passifs du système international. Mais au moins, on savait où on était. Depuis 1989, on est dans le système post-bipolaire. C'est-à-dire, on sait ce qu'il y avait avant, mais on ne sait pas ce qu'il y a maintenant. Donc, effectivement, l'international interroge, interpelle. Je le sens dans les amphis d'université, mais aussi dans les salles de conférences où j'ai la chance de pouvoir aller ici en France ou ailleurs dans le monde. Et lorsqu'on m'a demandé de traiter de la désoccidentalisation du monde, je l'ai accepté bien volontiers, parce que je crois que c'est l'un des points forts de cette interrogation. D'un double point de vue, et je voudrais bien placer cette réflexion qui n'est qu'hypothétique, introductif, timide, humble, sous une double interrogation de nature objective et de nature subjective. De nature objective, parce qu'effectivement, la question de la désoccidentalisation, c'est un peu la question de l'identité du système international. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et à un moment où on voit la Chine arrivée jusqu'à Paris, où on la voit s'imposer comme puissance presque à jeu égal, au moment où même certains nous annoncent que le piège de Thucydide va conduire probablement dans la violence la Chine remplacer les États-Unis, l'occidentalité interroge. La pluralité des cultures, qui n'a jamais été aussi vive, aussi nette, aussi forte, interroge également. Culture occidentale, si ce terme a un sens, au milieu de toutes ces cultures qui, non pas renaissent, mais s'affirment là où on les avait condamnées à la discrétion. Mondialisation. Et quand j'en parlais hier soir encore à monsieur de la Palice, je lui ai dit, mais la mondialisation, c'est un peu le contraire de l'occidentalité. Il m'a dit oui, oui, en effet. On pourrait parler des conflits qui sont plus situés au sud qu'au nord, c'est-à-dire hors de la sphère occidentale. L'Europe n'est plus le champ de bataille du monde qu'elle était depuis des siècles et des siècles. Crise du leadership américain. Bref, il y a des questions objectives sur cette identité et cette géographie du système international. Mais plus encore, ce qui m'intéresse, c'est la dimension subjective de l'interrogation. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment utile, fécond, de s'interroger sur le monde en ne cessant de se regarder soi-même ? Est-ce que le moment n'est pas venu, indépendamment de ce qu'est l'identité réelle et objective du système international, de sortir de chez soi et de regarder sa maison de l'extérieur ? Est-ce qu'il n'est pas utile, comme disait Aristote, de se mettre au balcon pour se regarder passer ? Est-ce qu'il n'est pas utile de tenter d'entrer dans la subjectivité de l'autre ? L'autre qui était l'éternel passif et dont on doit bien admettre qu'il est sorti de cette qualité. Et si on fait l'effort de nous regarder de dehors, de partager un moment les sentiments, les interrogations, peut-être les exaspérations des autres, est-ce que l'on ne va pas découvrir des éléments nouveaux de notre être ? Est-ce que l'on ne va pas comprendre que ce que nous appelons chaos n'est qu'en fait un ordre crypté que nous ne savions pas lire ? J'aime pas ces formules « désordre mondial »,« chaos mondial ». Ça ne veut pas dire grand-chose. Le désordre, c'est dans la tête de celui qui ne comprend pas. Mais en fait, il y a un ordre mondial. Simplement, nous ne savons pas le saisir parce que nous regardons toujours tout de notre fenêtre. Et nous n'arrivons pas à comprendre ces formes nouvelles de comportement, d'organisation, de conflictualité qui échappent à notre grammaire. Mais ce n'est pas parce qu'elles échappent à notre grammaire qu'elles n'ont pas de grammaire. Et justement, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que le monde vu du Sud n'est pas en fait différent dans sa configuration du monde qui se regarde lui-même ? J'ai un maître en sciences sociales, et j'en suis fier, et j'espère le servir de manière honorable, c'est notre grand sociologue Émile Durkheim. Et Émile Durkheim avait, à la fin du XIXe siècle, ne s'intéressant pas à l'international, mais s'intéressant aux sociétés nationales qui s'épanouissaient dans ce moment d'industrialisation en Europe, nous faisait remarquer qu'il n'y a pas de société qui ne porte ses pathologies, un peu comme les organismes humains. Et connaître ces pathologies, n'est-ce pas la meilleure façon de les soigner, ou en tous les cas de se donner les moyens de les soigner. Mon projet, à travers cette connaissance du monde, à partir d'autres bases que les nôtres, c'est peut-être de mieux voir ces pathologies, de mieux comprendre comment les soigner, au lieu effectivement de les dénoncer comme étant nécessairement issu de la barbarie. Alors, première question, et puis après il y en aura une deuxième, mais tout en venant d'un établissement qui ne parle qu'en deux parties, il y en aura trois. Il y a un dessert. La première question, c'est, mais si on parle de désoccidentalisation, au fait, qu'est-ce que c'est que l'Occident ? Qu'est-ce que c'est que l'occidentalité ? Il conviendrait peut-être de la définir. Et l'occidentalité, c'est d'abord un mot, avant d'être un concept. Et c'est un mot, en fait, difficile à cerner parce qu'en évolution, dans la longue histoire, Occident n'a pas voulu dire toujours la même chose. J'ai trouvé au moins cinq temps dans la définition et la construction de l'Occident. Le premier temps, c'est celui de la chrétienté. L'Occident, dans notre tête, c'est effectivement ce temps de la chrétienté. Pas exactement, d'ailleurs. C'est le temps de cette chrétienté telle qu'elle s'est recomposée à partir de Rome, face aux empires d'Orient, c'est-à-dire l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, et puis après cet empire de la Troisième Rome, autour de cette Russie qui, à l'aube du deuxième millénaire, venait à se composer. C'est déjà un premier sens religieux de cette occidentalité, mais d'un religieux sélectif. Ce n'est pas toute la chrétienté, c'est cette chrétienté occidentale autour de Rome et peut-être héritière, justement, de ce legs romain. C'est donc un mélange de religion et de politique. La romanisation du christianisme comme base de cette première étape de l'Occident. Puis il en est un second. L'Occident renvoyant, après le Moyen-Âge, à la Renaissance et aux Lumières. Et là, l'Occident veut se confondre avec le domaine et le règne de la raison, les Lumières. C'est une pensée qui va éclore comme cartésienne et qui va, surtout dans le contexte du XVIIIe siècle, bâtir cette idée de raison. Et la raison, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'universel. Ah, voilà déjà le premier malentendu. Voilà l'Occident qui se confond avec l'universel par le biais du culte de la raison. Troisième temps, et ça découle du deuxième, XIXe siècle, l'Occident comme standard de civilisation, c'est-à-dire, effectivement, ces races supérieures. Cet homme qui repose aujourd'hui au Panthéon, Jules Ferry, de parler de notre civilisation comme étant portée d'un messianisme curieux, puisqu'il doit nous conduire à éduquer ce qu'il appelle les races inférieures. Voilà comment s'est constituée au XIXe siècle une construction désormais hiérarchique du système international. Il y a le haut et il y a le bas. Le tout étant fragile. Le quatrième temps, c'est le temps de la définition de l'Occident face à ce nouvel Orient européen qu'était le totalitarisme soviétique. Et l'Occident de reprendre la main en se montrant non seulement porteur de raison, mais de liberté et d'émancipation. Et puis le mur est tombé. Le mur est tombé et est intervenu un cinquième temps dans lequel nous sommes actuellement, où l'Occident veut survivre, où l'OTAN a été pérennisé, mais où plus personne très bien ne sait ce que veut dire Occident. Alors, quelle meilleure façon de se définir que de se définir contre? On va à la recherche des ennemis. L'Occident, c'est face à la Chine, c'est face à l'islam, c'est face au Sud, c'est face à ceci, c'est face à cela. Est-ce que la définition est claire pour autant? Eh bien, ce mot, cette histoire, cette pérennité, je vous ai emmené finalement du premier millénaire jusqu'à aujourd'hui, a donné naissance à un système. Et là, la confusion devient forte, parce que le système qui est né dans le contexte de la Renaissance et de la post-Renaissance, va avoir ceci de particulier qu'il sera le premier système international. Et effectivement, l'histoire occidentale a inventé le premier système international. Pourquoi? C'est facile à comprendre. La grande invention qui est celle de la Renaissance, c'est l'invention de l'État. Qu'est-ce que c'est que l'État? C'est une unité territoriale souveraine, c'est-à-dire une unité politique territorialisée et souveraine. Et à partir du moment où le monde est fait de cette juxtaposition d'unités territoriales souveraines, quel autre choix y a-t-il pour ces unités que d'entrer dans une compétition incessante et pérenne? Et donc, le grand problème qui se pose, c'est comment organiser cet ordre d'unités souveraines qui se font indéfiniment en concurrence et qui, au nom de leur souveraineté, ont le droit d'utiliser tous les instruments et donc de faire de la guerre l'instrument normal de leur rapport et de leur relation. Et c'est ainsi qu'est intervenue pour la première fois l'idée d'un système international, entendez interstato-national, c'est-à-dire ce système organisé autour de la compétition d'unités territoriales souveraines et de poids égal. Ce qui n'existait pas auparavant. Auparavant, les systèmes impériaux n'étaient pas des systèmes internationaux, c'était des systèmes de rayonnement autour de l'Empire. Les systèmes tribaux, les cités, les systèmes segmentaires n'étaient pas des systèmes internationaux. Là, l'invention est forte et elle va être consacrée, prenant quelques libertés avec l'histoire, par la fameuse paix de Westphalie, les traités de Münster et Osnabrück qui vont organiser le système international qui va ainsi en dériver et les cartes qui vont l'exprimer. Et il y a là un fait de culture, un fait d'histoire extraordinairement contraignant, contraignant pour notre mémoire, contraignant pour tous les autres, à savoir cette idée que ce système westphalien de libre compétition entre États souverains est le seul, l'unique système international. Et là, le hiatus est énorme, parce que pourquoi voulez-vous que l'intelligence de l'international, la signification de l'international, soit la même partout et que cette signification bien particulière de l'international que consacre Westphalie soit spontanément partagée par tous les autres sur notre planète. Le hiatus, je le répète, est énorme. Il est énorme, mais il installe notre mémoire. Il installe notre mémoire car ce système qui a été pendant des siècles, en réalité, pratiquement jusqu'à la chute du mur, un système européen, peu à peu élargi à l'Amérique, j'y reviendrai dans un instant, est pensé comme étant un système universel. Il gouvernait l'Europe, mais il avait vocation à gouverner le monde, sans qu'on demande à qui que ce soit son avis. Et donc, ce système, en se pérennisant, va rencontrer toute une série de contradictions. Toute une série de contradictions qui, peu à peu, vont installer des lézardes dans l'ordre international. Quelles sont ces contradictions? D'abord, il y a un problème de géographie, avec cette malheureuse naissance de la géopolitique. Malheureuse, car très réductrice. Qui consiste à dire, ce système westphalien, c'est le système des Européens, et l'Amérique étant essentiellement gouvernée par des Européens, en tous les cas par des acteurs qui ont la mémoire européenne, ce système est appelé à s'étendre, à s'élargir au continent américain, nord, centre et sud. Avec alors une curieuse posture de l'autre côté de l'Atlantique. Premier tableau, 1823. Le président Monroe énonce une doctrine qui va surprendre puisqu'il explique que l'Amérique est aux Américains, l'Europe est aux Européens. Donc, effectivement, nous avons peut-être la même grammaire de l'international, mais nous sommes deux mondes. Nous sommes deux mondes, ça voulait dire, vous, Européens, ne vous mêlez pas de ce qui se passe en Amérique, et en particulier dans l'Amérique du Sud, qui était en plein processus de décolonisation. Mais nous, Américains, nous avons le droit, nous, États-Unis, de nous mêler de ce qui se passe en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Et le grand moment, ça n'a pas été tellement Monroe, ça a été 22 ans plus tard, ce fameux texte, le Manifest Destiny, publié par un journaliste, M. John O'Sullivan, qui explique que la Providence, celle issue des pèlerins du Mayflower, a confié aux États-Unis une tutelle sur le monde américain. Et c'est bien au nom de cette providence que le président Polk va faire la guerre au Mexique, récupérer le Texas, ensuite lui et ses successeurs d'élargir les États-Unis vers l'Ouest. On le fait au nom de la providence. C'est-à-dire le messianisme vient s'installer comme cerise sur le gâteau, plus exactement cherry on the cake, dans une construction westphalienne qui, cette fois-ci, a une orientation téléologique très affirmée et très claire. Le président Roosevelt, le premier, Theodore Roosevelt, va d'ailleurs pas se gêner pour reprendre ce Manifest Destiny et en faire la légitimation de sa politique de gros bâton vers l'Amérique du Sud. Et peu à peu, ces deux mondes vont fusionner à travers, effectivement, une commune adhésion à l'occidentalité. Fusion, d'ailleurs, intéressante, parce que la première étape, on l'oublie toujours, c'est 1885. La première fois qu'une délégation américaine a daigné venir en Europe pour s'occuper des affaires du monde, c'est lorsque, en 1885, à Berlin, on se partageait le bassin du Congo et régions avoisinantes. Tiens, ça nous intéresse, on va quand même y faire un tour. Et puis, peu à peu, on va voir, effectivement, ces liens et ces passerelles se renforcer jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale marque la fusion de ces deux mondes et l'extension du projet messianique de l'Amérique du Sud vers tout le monde de l'occidentalité. La voici ainsi confortée. En même temps, Première Guerre mondiale, c'est peut-être la première faille. C'est la première faille, pourquoi ? Parce que on a voulu... Georges Clemenceau, en particulier, a voulu faire de la Première Guerre mondiale le point d'aboutissement de ce système westphalien, l'absolutisme westphalien, puisque pour la première fois dans une négociation internationale, on va exclure le vaincu de la négociation. C'est-à-dire, on va faire de la puissance non seulement la base du système international, ce que c'était depuis que compétition de puissance existait, mais on en fait le principe structurant. Celui qui a la puissance gère, celui qui ne l'a pas regarde, admet, obéit. On l'impose en Allemagne, à l'Allemagne, on sait ce qu'il en est résulté, on l'impose aussi à la Chine. Et il faut signaler ce point parce que c'est une première faille grave. La Chine, qui avait rallié l'entente en août 1917, espérait ainsi pouvoir entrer dans le système international. Point du tout. La Chine n'a le droit à rien. Son représentant, qui est un demi-occidental, M. Wellington Koo, formé aux États-Unis, PhD de Columbia, essaye bien de négocier, de bricoler quelque chose. Non. Le Shandong, qui était sous concession allemande, va directement passer au Japon. Et pour les élites chinoises et les étudiants chinois, c'est la première démonstration forte que l'ordre westphalien s'étendra au monde entier, mais dans une relation hiérarchique et dans une relation de domination. La base même d'un nationalisme asiatique anti-occidental se trouve dans cette frustration de 1919. Elle ne quittera pas le continent. Et ceci va être considérablement accéléré par les circonstances désastreuses de la gestion de ce système hiérarchique et d'une décolonisation ratée. Mesdames et messieurs, nous payons aujourd'hui très cher le prix d'une décolonisation complètement ratée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord, premièrement, que le XIXe siècle, qui aurait pu être le moment de réconciliation d'un monde qui était en train de s'unifier, qui aurait pu être le moment de constitution d'un vrai système, sinon international, du moins mondial, va se faire sur l'inégalité. À la Chine, on ne parle que pour la dominer, que pour lui fourguer l'opium que l'on interdit à la consommation en Europe. Et à l'Afrique, on va la coloniser. Et tout ceci crée des choses que l'on ne veut pas voir en Occident et qui constituent le début de notre histoire, à savoir un sentiment de méfiance par rapport à cet Occident qui fait réagir en Asie à travers l'essor du panasiatisme. Il est faux de penser que les frustrations du traité de Versailles ont conduit la Chine à affronter le Japon. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien sûr, la rivalité sino-japonaise va apparaître et très vite de façon dramatique. Mais en même temps, en 1924, Sun Yat-sen participe à Kobe à une conférence panasiatique dans laquelle il vante l'amitié sino-japonaise en considérant que c'était la condition même de l'émancipation de l'Asie. Et à ces conférences panasiatiques qui vont se multiplier vont arriver les Indiens, Jawaharlal Nehru en tête. Et voilà qui va donner naissance aux enfants et petits-enfants tels Mohammad Ben Mahathir ou Lee Kuan Yew. Et puis le panafricanisme, première conférence panafricaniste en 1900, mais surtout trois conférences panafricanistes au lendemain de la Première Guerre mondiale à partir justement de la découverte de tout ce que celle-ci exprimait de danger et aussi d'espoir pour la survie du monde africain et le panarabisme qui va se développer d'abord sous forme de panislamisme, première conférence panislamiste 1926, et qui ensuite va donner naissance avec le panafricanisme, avec le panasiatisme, ces contrepoids à une occidentalisation, contrepoids qu'on ne veut même pas voir. Si on avait voulu les regarder en face, eh bien on n'en aurait probablement pas été là où nous en sommes. La décolonisation arrive, elle est ratée. Elle est ratée parce qu'elle se fait contre les utopies de décolonisation. Vous savez, les grands émancipateurs de l'Afrique, les Nkrumah, les Azikiwe, les Nyerere, ce n'étaient pas des bâtisseurs d'État, parce qu'ils ne voulaient pas bâtir des États, parce qu'ils savaient, Nkrumah l'a dit, il l'a écrit, construire un État, c'est donner à la puissance coloniale une façon de peser sur nous, de nous gêner, de nous entraver. Donc, la grande utopie, c'était le panafricanisme. Cette utopie a été étouffée et la décolonisation s'est faite de la pire des façons, c'est-à-dire à partir de l'imitation, de l'importation servile du modèle étatique occidental qui avait été inventé des siècles auparavant dans un tout autre contexte culturel, économique, social, religieux, politique. Et cette décolonisation a été ratée parce qu'elle ne va déboucher sur aucune forme de co-gouvernance. Et c'est peut-être ça le plus tragique. À mesure que l'on passe des 51 membres fondateurs des Nations Unies aux 193 que nous comptons actuellement, rien ne va changer dans l'ordre institutionnel international. Pire que ça, voyant monter les foules à l'Assemblée générale, on va reconstituer un mini-latéralisme, c'est-à-dire une diplomatie de club réunissant, restructurant autour d'un G7, qui a été constitué en 1975, comme vous savez, et qui va ainsi peu à peu confisquer, monopoliser les modes de gouvernance mondiale. Quand vous êtes exclu de la gouvernance mondiale, qu'est-ce qui vous reste à faire ? Bien, c'est le début d'une aventure. Il ne vous reste plus que la contestation. Quand vous n'avez pas le droit à la parole, vous gueulez, vous protestez. Et c'est ce qui va donner naissance à Bandung, et après Bandung au mouvement des non-alignés, et après le mouvement des non-alignés va donner naissance au groupe des 77, à la conférence d'Alger, à la charte des 77, et peu à peu va se constituer, en marge de ce système bipolaire bien léché, une énorme zone de contestation qui donnera naissance à cette forme inédite de diplomatie, je conteste, faute de pouvoir gouverner. Quand la mondialisation arrive par-delà tout cela, cette mondialisation va, et pour la dernière fois, bousculer ce qui reste d'ordre occidental. Cet ordre contesté, cet ordre rétréci, cet ordre incompréhensible dans les cultures qui viennent à émerger ou à réémerger, eh bien, cet ordre va être attaqué par les trois principes fondamentaux de la mondialisation. L'inclusion, c'est-à-dire tout le monde, sauf la Palestine, fait partie de l'espace mondial. Ça veut dire, deuxièmement, l'interdépendance. Tout le monde dépend de tout le monde, et comme on le dit dans l'institution où j'enseignais, réciproquement. Ça veut dire que le faible dépend du fort, ça c'est pas nouveau, mais désormais, avec la logique de la mondialisation et de l'interdépendance, le fort dépend du faible. Et ça, c'est une révolution. Et ça veut dire une troisième chose, la mobilité. Dans un monde mondialisé, on bouge, parce que les imaginaires des individus se mondialisent. Et dans cette mobilité générale, le principe de base du système occidental westphalien s'effondre, qui est le principe de territorialité. Il y a 25 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Fin des territoires », ce qui m'a valu de me faire injurier. Mais j'aime ça, ça prouve qu'on dit quelque chose. Eh bien, cette fin des territoires, elle s'accomplit dans la banalité d'une mondialisation qu'on ne veut pas regarder en face. Alors on se rassure en imaginant qu'il y a toujours des frontières, des murs, tout ceci pour arrêter tout cela. Non, le migrant est désormais l'avenir du monde. Et donc, dans cette mondialisation qui s'accomplit, voilà l'Occident dilué. Alors, Alors, il dérive de cela une recomposition complète de la conflictualité. Et je pense qu'ici, cette question vous intéresse tout particulièrement. D'abord, une nouvelle géographie de la guerre. Je le disais tout à l'heure, l'Europe n'est plus le champ de bataille du monde. Je vous le disais tout à l'heure, le champ de la conflictualité descend du nord vers le sud et le sud-est. Rien qu'en cela, elle change de sens. Mais le changement fondamental, c'est que la guerre aujourd'hui, mais oserais-je encore l'appeler la guerre, je préfère l'appeler la nouvelle conflictualité internationale, ou, pour faire plus chic et plus scientifique, New International Conflict. Si vous le dites en anglais, ça passe mieux. Et si vous dites les NIC, alors là, c'est fantastique. Eh bien, l'élément nouveau, c'est qu'au nom de tout ce que je vous ai dit, la nouvelle conflictualité internationale n'est plus ce que la guerre était pendant des siècles, ce qu'était la guerre westphalienne, c'est-à-dire une compétition de puissance. La guerre aujourd'hui, cette nouvelle conflictualité, est devenue une compétition de faiblesse. Ça ne veut pas dire que les puissances en désintéressent, au contraire. Ils aiment intervenir, on y reviendra tout à l'heure. Mais cela veut dire que les facteurs de la conflictualité ne se trouvent plus dans cette rivalité de puissance, mais dans cette surenchère de faiblesse. Faiblesse des États qui s'effondrent comme s'effondre l'État centrafricain, comme s'effondre l'État somalien, comme s'effondre l'État congolais, etc. Faiblesse des nations, ces contrats sociaux qui n'arrivent pas à se construire, comme au Mali, comme en Irak. Et surtout, faiblesse des liens sociaux. Ces sociétés civiles qui n'existant pas rendent le conflit simple sous forme d'endémie, de pathologie durkheimienne, pathologie chronique de ces sociétés en décomposition. Si bien que les principaux acteurs de ces nouveaux conflits ne sont ni les États ni des armées, mais des milices, ou des bandes d'autodéfense sui generis, à l'instar de ces bandes d'autodéfense Dogon qui ont avant-hier assassiné 150 Peuls d'un coup. Cette mutation profonde du jeu de la conflictualité vient complètement inverser le système international et fait que l'identité même de la conflictualité échappe au contrôle de l'Occident. Ce n'est plus la grammaire westphalienne qui organise la conflictualité. C'est en quelque sorte son inverse. C'est l'inaccomplissement du modèle westphalien qui crée cette conflictualité nouvelle, qui donc échappe autant aux règles de Clausewitz qu'à celles du droit international. Alors, je vous promettais le dessert, le voici. À quoi ressemble ce monde désoccidentalisé? Eh bien, trois mots. Faiblesse, globalité, nouvelle puissance. Faiblesse, globalité, nouvelle puissance. Ça veut dire que cette faiblesse prend le contrôle du jeu international. Au début, ça a été théorisé par nos collègues américains qui parlaient à son propos de « soft balancing ». Voilà, ça fait à nouveau sérieux, c'est de l'anglais, soft balancing, c'est-à-dire cette capacité qu'ont les faibles par leur propagande, par leur symbole, par la communication, par l'image, d'équilibrer la puissance telle que nous la connaissons et telle que nous en rêvons dans notre imaginaire occidental. Puis ce soft balancing a vite atteint ses limites, pour donner naissance à ce dont je parlais tout à l'heure, la diplomatie de contestation. La diplomatie de contestation qui devient, au fil des années et des décennies, plus proactive que la diplomatie de puissance. Contester devient l'élément essentiel de la proactivité internationale, là où la puissance n'est plus que dans une posture réactive. Et puis, cette contestation se transforme en déviance. C'est-à-dire, on ne se contente pas de contester, mais on veut porter des coups à ce système artificiellement occidental. Retrouver des personnages familiers des journaux télévisés. Kim Jong-un, et avant lui Kim Jong-il, et avant lui Kim Il-sung, ou Hugo Chavez, ou Mahmoud Ahmadinejad, ou Saddam Hussein, ou Muammar Kadhafi, cette diplomatie de déviance, le terme est de Durkheim, qui ne les connaissait pourtant pas. Et peu à peu se dessine encore quelque chose de plus profond. On ne se limite pas à contester et à faire de la déviance. On va plus loin, on est en train d'inverser les rapports de force. Et si le client devenait tout d'un coup plus fort ou peu à peu plus fort que le patron? Et si M. Idriss Déby avait plus d'arguments en sa faveur que son patron français? Jusqu'à demander au gouvernement français d'envoyer son aviation pour arrêter une colonne qui descendait tranquillement vers N'Djamena pour prendre le pouvoir. Où était le patron? Où était le client? Mon devoir de réserve d'ex-fonctionnaire m'oblige à m'arrêter là, mais je pose la question, c'est-à-dire, où est le patron et où est le client de M. Trump et de M. Netanyahou? Intéressant. C'est-à-dire que cette inversion progressive où le client devient le patron et le patron n'ose pas encore se présenter comme le client est quand même un élément important, capital de nos relations internationales aujourd'hui. Et le maréchal Sissi, dans ses rapports à ses protecteurs, où est le patron, où est le client? C'est un petit jeu de société que l'on pourrait ainsi mettre en place. Mais allons encore plus loin. Cette faiblesse devient un principe structurant du système international. Les principaux points de vulnérabilité de notre système international ne se trouvent plus dans le jeu de puissance, mais dans le jeu de faiblesse. C'est-à-dire, notre système international est un système tellement complexe que le moindre fétu de paille est capable de le dérégler totalement. Et ceci va très loin, jusqu'à reconstruire l'agenda international, mesdames et messieurs. Qui fait l'agenda international aujourd'hui? Qui crée l'événement dans le monde? Qui de George W. Bush ou d'Oussama Ben Laden a fait l'histoire de notre début de millénaire? Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. Qui crée l'événement et qui réagit à l'événement? La question, disons, mérite d'être posée. Et on voit bien à travers cela l'inanité des réflexes de puissance. L'inanité des réflexes de puissance. Car le péché mignon de l'Occident, autrefois, il se passait quelque chose dans le monde. Le premier jour, le Quai d'Orsay publiait un communiqué appelant les partis à la retenue. La retenue. Le deuxième jour, la même institution réglait tout le problème en définissant ce qu'était la solution. Le troisième jour, puisqu'on n'obtempérait pas, on envoyait un corps expéditionnaire. Le quatrième jour, c'était le plus beau jour de la vie de certains, puisque ce corps expéditionnaire avait libéré ce qu'on voulait libérer. Le cinquième jour, on s'apercevait que ça n'avait rien réglé. Et le sixième jour, on se rendait compte que ça avait plutôt aggravé la situation. Alors le septième jour, le prince occidental se reposait. Tout cela, c'est l'impuissance de la puissance et le déplacement du centre de gravité de notre système international. Alors, puisque monsieur le directeur me fait des signes désespérés avec ses doigts d'une main, ça veut dire que j'ai moins que 5 minutes, je conclurai en disant, mais il y a peut-être autre chose, une alternative. L'Occident vient peu à peu s'intégrer dans un ordre mondial qui prévaut sur sa particularité, mais peut-être qu'une autre puissance est en train d'émerger, dont le président est ce soir à Paris, et qui marque en quelque sorte le cycle éternel de la puissance. D'abord, j'ai horreur des cycles éternels, car rien n'est éternel. Vous savez que le principe même du changement, comme dirait Raymond Devos, c'est qu'il peut changer. Et que donc, l'éternelle loi du retour n'a absolument aucune scientificité. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette contestation de l'occidentalité venue de la Chine est une contestation de la part de ceux qui ont incarné le rôle de dominé pendant un siècle et demi, peut-être deux, et qui, au nom de ce statut de dominé, ont un double regard. D'abord, de penser très tôt, grâce au génie de Chuen Lai en 1955, que mieux valait se mettre du côté des dominés que des dominants. C'est pour ça que la Chine s'est fait inviter à Bandung. Et puis une deuxième idée, qui est de dire, mais dans le fond, les dominants occidentaux qu'ont-ils gagné ? Leur domination leur a été coûteuse et ne leur a rapporté rien. C'est le contraire du loto. Ça coûte cher et ça rapporte rien. Cette critique de l'hégémonie, qui est une critique commune dans les milieux intellectuels et politiques chinois, est à la recherche de ce que j'appellerais la post-hégémonie. Alors, rassurez-vous ou ne vous réjouissez pas selon vos tempéraments. La post-hégémonie, ce n'est pas l'Éden, ce n'est pas le bonheur parfait pour tous. Ce n'est probablement pas la régression de la violence, ni la disparition de la puissance. Mais c'est en tous les cas une nouvelle vision qui tente à découpler le politique et l'économique. Dominer le monde sur le plan économique, on en a besoin et ça ne peut apporter que des avantages. Le dominer sur le plan politique, ça ne sert à rien, surtout quand on ne croit pas en Dieu, m'a dit un de mes collègues chinois, et où on n'a rien à universaliser. On est chinois, vous n'êtes pas chinois, tant pis pour vous. Mais nous, ça nous est égal. Eh bien, cette façon de considérer que le rien faire est souvent le meilleur agir, c'est aussi une façon de recomposer l'ordre mondial. Permettez-moi de prendre ainsi mes conclusions. L'ordre mondial est en train de se recomposer, d'abord sur l'impuissance totale d'un modèle hégémonique qui est au bout de son souffle. Mais surtout, et c'est là que tout va se jouer, et c'est là que la vérité s'imposera autant à nous qu'à nos partenaires et amis chinois, le propre de la mondialisation, c'est que gagne celui qui sait gérer l'altérité. Hélas, notre culture, qui est une culture très interne, très refermée sur nous-mêmes, nous a fait perdre très tôt le sens de l'altérité, ou a rejeté l'autre dans l'état de l'inférieur quand ce n'était pas dans celui du crétin. Et la mise de la mondialisation sera remportée par celui qui saura rebâtir sa politique en fonction de la pratique de l'altérité. Mesdames et messieurs, pratiquez l'altérophilie.
Vous avez mérité. Alors bonsoir, merci beaucoup Bertrand Badi de cette conférence tellement stimulante et tellement riche d'idées. Alors, j'espère que la salle posera des questions concernant les 2000 ans de l'histoire, déjà je vois les mains, de l'occidentalisation et de la désoccidentalisation quant à ses conséquences. Alors je vais dans ce cas commencer tout de suite par le monsieur qui est au troisième rang, devant, en passant mon tour et en regardant également les questions qui nous viennent de différentes villes qui regardent votre conférence. Alors monsieur, là-bas.
Merci Jacques Bordet. Vous avez terminé par un point qui fait furieusement penser à Tianxia, la philosophie chinoise qui est vivre tous sous un même ciel. Et vous avez mentionné la politique économique pour gagner le monde, mais pas la politique culturelle. Est-ce que finalement la puissance de la culture, telle qu'on l'a reçue aussi des États-Unis il y a 60 ans, est-ce que maintenant, ce n'est pas cette culture chinoise qui va nous aider à avoir de l'altérité, à apporter de l'altérité dans notre civilisation occidentale ?
Merci beaucoup, monsieur. Vous commencez très fort, c'est-à-dire par effectivement un point extrêmement important. Bien sûr que la découverte, la redécouverte, l'échange, l'interaction avec les autres cultures constitue une des bases possibles de la construction de la mondialité et donc de l'accomplissement du processus de mondialisation. Le problème, c'est que les cultures ont été trop instrumentalisées politiquement. Elles l'ont été autant du côté des dominants que des dominés. C'est-à-dire les dominants ont construit leur propre culture comme étant supérieure, et la malencontre, dirait le grand La Boétie, la malencontre, c'est que cette culture de la raison, à laquelle nous nous identifions, au sens fort du terme identifié, se voulait par définition supérieure à toutes les autres, puisqu'elle incarnait la raison. Et donc, elle a été largement confondue avec la domination hors de son espace propre. Le modèle n'est pas si simple, parce que lors de la Nahda en islam, la culture occidentale et la raison ont été utilisées. C'est-à-dire le projet de la renaissance arabe et musulmane partait de l'idée de reprendre l'idée occidentale de raison pour renforcer le potentiel culturel propre à l'islam. Mais ça n'a pas mené très loin. Et très vite, les cultures dominées se sont crispées de la même façon, c'est-à-dire se sont définies comme étant des instruments d'abord d'émancipation, puis ensuite de combat de la culture dominante. Donc, la grande difficulté de notre diplomatie culturelle, de façon générale, de cette diplomatie d'influence, de ce soft power, comme on dit, c'est qu'elle a été très fortement hypothéquée par le politique. Alors, ce qui est intéressant avec la culture chinoise, c'est que la posture que nous avons ici en Occident à l'égard de la culture chinoise est assez différente de celle que nous avons par rapport à la culture musulmane. D'abord parce que nous la connaissons moins, parce qu'elle nous est beaucoup plus extérieure, parce qu'il y a toujours eu un tropisme, je dirais presque exotique pour la Chine, et que le rapport entre culture occidentale et culture chinoise est probablement moins chargé conflictuellement. Mais on en est encore très loin. Quand on voit les difficultés que l'on a à apprendre le chinois en France, alors que dans tous nos lycées, la langue chinoise devrait être, peut-être pas la première langue, mais la deuxième ou la troisième. C'est-à-dire l'avenir appartient à ceux qui sont capables de parler ces langues que je dirais long courrier. On en est très très loin. Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Un management intelligent de notre rapport aux autres cultures, et notamment celles qui ne sont pas, je dirais, dans le chaudron, ce qui est le cas de la culture chinoise, peut être un moyen de construire la mondialisation. J'étais hier avec mon épouse à la célébration des 55 ans des relations diplomatiques entre la Chine et la France, et moi qui pleure jamais, j'ai failli éclater en sanglots quand j'ai vu des petites jeunes filles du collège d'Aubervilliers et de Charenton chantaient en chœur une chanson chinoise. Voilà, exactement. Et je me suis dit, mais c'est ça la vraie mondialisation. C'est ça la vraie mondialisation.
Alors, décidément, la Chine vous inspire, mais la Chine inspire aussi les auditeurs qui nous envoient beaucoup de questions. Alors, il y en a deux qui se ressemblent, je vais les poser en même temps. La question qui vient de Montpellier, qui nous dit que est-ce qu'il faut attendre que la prochaine mondialisation ou la désoccidentalisation est-elle synonyme de la domination de l'Asie et de ses puissances ? Et la question qui dit que ce que la nouvelle mondialisation est la sinisation et comment résister à cette sinisation ?
Alors, nul n'est prophète, et moi je me garderais bien de faire de la futurologie. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans, mais à ce moment-là, je suis sûr que vous me réinviterez, on pourra en parler. Ah ben, décidément, je n'ai pas de chance. J'essaye de faire valoir ma jeunesse. Bon, contentons-nous d'observer ce qu'il y a aujourd'hui. Ce qu'il y a aujourd'hui, il se trouve que, considérant que... Vous savez, moi je considère qu'il y a deux espaces fondamentaux où se joue l'avenir du monde, c'est la Chine et l'Afrique. Et donc, comme je suis retraité, je peux faire un peu plus ce que je veux, je passe mon temps entre les deux. Et ce que je trouve absolument fascinant en Chine, c'est que maintenant les acteurs parlent, ce qui n'était pas forcément toujours le cas, et notamment les analystes et les politiques eux-mêmes.
Et l'analyse qu'il développe, c'est ce que j'ai trop brièvement dit tout à l'heure, nous explique de manière extrêmement claire et convaincante que l'hégémonie est un piège. Ça, c'est difficile à comprendre pour un cerveau occidental, parce que le système westphalien, c'est la course à l'hégémonie. C'était dans la nature même de la compétition internationale. Dans le modèle chinois, cette vision dont ils ont eu beaucoup à souffrir n'est pas considérée comme inéluctable. Et la différence qu'il y a, c'est que vous, vous croyez en Dieu, ce qui n'est pas forcément vrai, mais enfin, ça, ça ne les regarde pas, et nous, on n'y croit pas. Et comme on n'y croit pas, on n'a rien à universaliser. Hein. Et le pari chinois, c'est de dire, on va accomplir notre puissance, qui est réelle, à travers, effectivement, notre capacité de d'étendre nos fonctions économiques, c'est-à-dire de rechercher à satisfaire nos besoins énergétiques, nos besoins en matières premières, nos besoins en terres arables. Vous savez que pour nourrir la Chine, il faut 2,5 fois la surface arable chinoise. Donc il faut nécessairement déborder. Et ça, c'est quelque chose qui est acquis. Mais surtout pas sur une base ni de sinisation culturelle, ni de sinisation politique. Alors, la grande inconnue, c'est est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, hein. Et ça, moi, je suis tout prêt à entendre ceux qui disent « c'est pas possible ». Mais je ne suis pas prêt à admettre que c'est nécessairement impossible. Il n'y a pas de nécessité dans cette affaire. Je voudrais vous raconter juste une anecdote. Un diplomate chinois à qui je demandais, posait la question suivante, « est-ce que vous voudriez être admis au G7 ?» C'est quand même un peu bizarre, hein, que la Chine ne soit pas membre du G7, alors que je ne veux pas être désagréable avec certains pays qui y sont et qui me paraissent légèrement derrière la Chine. Et ce monsieur m'a répondu non. J'ai dit, écoutez, on ne répond pas non à un universitaire, on répond en deux parties. Hein, expliquez. Et à ce moment-là, j'ai eu une explication très, très précise et très convaincante. Il dit, nous, on n'a aucun intérêt entre G7 parce qu'on va, on va être perçu, notamment dans les pays du Sud, comme étant du clan des dominants. Et ça, nous ne voulons pas. Il y a, et ils nous servent, les responsables et les intellectuels chinois, quantité de formules, de phrases issues de Lao Tzu ou de Confucius pour montrer à quel point c'est un piège que de jouer cette puissance. Donc, je crois que nous risquons la sinisation si nous persistons dans cette obsession. C'est une véritable obsession. Dans cette obsession d'une Chine conquérante. Je pense que la grande difficulté, parce que ce n'est pas simple, de construire la mondialisation, c'est de construire des partenariats. Moi, j'ai été très étonné que M. le Président de la République, récemment en voyage en Afrique, nous dise « on est en Afrique pour contenir la Chine ». Mais ça, c'est fachoda. C'est le 19e siècle. Ce n'est plus la République en marche, c'est la République en marchant. Et donc, il y a là un hiatus terrible. Trouver la bonne voie de partenariat n'est pas chose simple, je le reconnais. Mais construire la mondialisation avec l'idée qu'il y a un ennemi qu'il faut contenir, la Chine, ça, on n'y arrivera pas. Et si on n'y arrive pas, on peut effectivement essuyer des réactions violentes, et ces réactions violentes peuvent nous conduire effectivement à être victimes d'un autoritarisme. On sait bien que nos amis chinois savent utiliser le fer autoritaire quand il le faut. Les Ouïghours en savent quelque chose et les Tibétains également. Hein. Bon, je pense que nous ne sommes pas dans la posture des Ouïghours et des Tibétains. Nous avons la possibilité d'exister et d'être, mais à condition que ce soit sur la base d'un partenariat et certainement pas d'un containment. Le containment, l'endiguement, c'est l'obsession des chantres de Westphalie.
Alors, pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire au sujet de la Chine, deux remarques ou deux questions. Premièrement, cette volonté de puissance chinoise, elle existe quand même, parce que les pays qui se situent dans la région ressentent directement, je peux parler de la crise dans la mer de Chine, dans les mers de Chine, dans les deux. Et deuxièmement, vous avez parlé vous-même, vous avez dit le cerveau occidental ou le cerveau d'autres continents également voit les choses toujours en termes de cette hégémonie ou domination. Est-ce que la Chine, et les questions montrent, ne sera pas perçue quand même comme étant un hégémone, un nouveau hégémone, et ne sera pas défiée de la même façon que les Occidentaux ont été ?
Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Non, il y en a trois.
D'accord, trois. D'abord, qui viendra.
Il faut savoir distinguer le régional et le mondial. Vous dites que la Chine est une puissance, qui oserait dire le contraire ? Bon. Moi, je m'arrêterai à dire puissance parce que quand on dit hyperpuissance, ça ne porte pas chance à ceux qui s'expriment ainsi. Donc, la Chine est une puissance. Quand on est une puissance, on est nécessairement en position d'hégémonie régionale. C'est mécanique. C'est presque une lapalissade. Quand vous êtes fort, vous ne pouvez exprimer votre force qu'au détriment de ceux qui vous entourent. Ça, ce n'est pas un principe westphalien, c'est un principe humain. Bon. Ce qui, d'ailleurs, ne se traduit pas de manière aussi simple. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai cru utile de vous dire que l'ascension et la construction de la Chine ne s'est pas faite dans un premier temps contre le Japon. Bon, il y a eu l'invasion de la Chine par le Japon, la Mandchourie puis de la Chine, mais ce qui est intéressant, c'est que Mao Tse-tung lui-même ne voulait jamais mettre le Japon en accusation. Vous ne pouvez pas trouver de texte de Mao Tse-tung qui dénonçait l'hégémonie japonaise. C'est très, et même l'hégémonie passée japonaise. Donc, il y a toujours en Chine cette espèce de tropisme vers le panasiatisme dont je vous reconnais volontiers qu'elle peut servir de base, effectivement, à l'affirmation d'une puissance régionale. Nous sommes le leader du panasiatisme. Bon, ça, c'est incontestable. Ça ne vaut pas pour autant hégémonie mondiale. Et n'oubliez pas ce que hégémonie veut dire. Hégémonie, c'est un concept thucydidien qui distinguer ainsi le rôle du conducteur et qui était reconnu comme tel par ceux qui le suivaient. Bon. La Chine n'a pas envie d'être conducteur. La Chine a envie de se servir quand elle a besoin de se servir. C'est évident, il suffit de regarder la quotidienneté de son action économique et commerciale en Afrique, en Asie et même en Amérique latine. Il ne faut pas oublier que les routes de la soie vont vers l'Amérique latine, ce qui pour un géographe, en principe, devrait donner des boutons. Mais toujours est-il que ce choix hégémonique n'est pas un choix chinois. Le choix hégémonique est un choix qui a transcendé les âges dans notre portion d'humanité, qui est justement l'Occident, qui a été une marque de l'occidentalité, qui d'ailleurs, mais ce serait une autre conférence, ne s'est jamais accomplie en Occident. Vous n'avez jamais eu d'hégémone achevé en Occident. Quand ça a failli marcher, en 1945, il a fallu que cette hégémonie fût partagée avec un co-gérant qui était l'Union soviétique. Donc ça n'a jamais existé. C'est un mythe, l'hégémonie, ça n'a jamais existé. En revanche, ça a été un projet constant. C'est ça. Le mythe, c'est une représentation performative. C'est-à-dire ça a orienté, organisé, ça nous a épuisés, ça nous a tués, ça nous a disqualifiés, ça nous a décrédibilisés, ça nous a délégitimés. La Chine, c'est pas son histoire. Vous aviez un bout de question après.
Oui, alors c'était l'auditeur de Marc-Alain Baroy vous demandait par cette nouvelle politique chinoise, notamment de One Belt One Road, n'était pas aussi une manifestation de cette tentative de domination ou d'hégémonisation ?
Non, hégémonie, non. Je crois avoir répondu à cette question. Oui. C'est-à-dire, très honnêtement, notre projet hégémonique vers le monde, de Jules Ferry à George W. Bush, il y avait d'ailleurs très peu de différence entre ces deux personnages. Tu vois ? Uh-huh. Mais oui, il faut le savoir.
Il finira au Panthéon ?
Pardon ?
Il finira au Panthéon ?
Non, j'espère que les deux en seront dehors un jour. Mais ça, c'est autre chose. Mais la représentation du monde, c'était celle, effectivement, d'éducation des races inférieures. Et c'était sincère. Autant Jules Ferry que Bush étaient sincères. Vous savez, Bush, je ne sais pas si vous vous rappelez ses discours, moi, il y avait quelque chose qui me frappait dans sa rhétorique, c'est qu'il commençait toujours ses discours en disant « United States is a good nation ». Qu'est-ce que c'est « a good nation » ? Qu'est-ce que c'est que « bad nation » ? Mais il y a effectivement cette vision messianique, providentialiste, moralisatrice de l'hégémonie qui n'existe pas du tout dans la culture chinoise. Alors, entendons-nous bien, ça ne veut pas dire que c'est mieux, ce n'est pas ça mon problème. Et puis, moi, j'en ai assez de ce monde qui juge toujours de tout, qui veut... Regardons les choses se faire. Et dans les projets chinois, ceci n'existe pas parce qu'ils considèrent que ceci est un piège, que ça va coûter cher, que ça va ruiner celui et celle qui se lancerait. Donc que cet auditeur se rassure, il ne sera pas sinisé.
Oui, c'est trop tard de toute façon. Alors, une autre question de la salle. Je ne vois pas, sinon je... Ah oui, voilà, au milieu, madame, en blanc. Oui, alors, peut-être que la lumière vous gêne. Mais...
Oui, bon, bonsoir et merci pour cette conférence merveilleuse. Néanmoins, j'ai eu un tout petit blanc au moment où vous avez parlé d'alternatives. J'ai juste noté comme ça, économie, ok, politique, non. Et j'avoue que je n'ai pas très bien compris. Merci beaucoup.
C'est à propos de la Chine.
Ben, c'était presque à la fin.
Oui.
C'était presque à la fin.
Alors, si cela se rapporte à ce que j'ai en tête, je voulais dire quelque chose qui, effectivement, est important, mais comme Jean-Jacques Roche me faisait des signes désespérés pour que j'arrête, j'ai un peu tassé mon propos. Ben oui, partageons les responsabilités. J'ai été peut-être trop rapide, et c'est effectivement quelque chose de très important. Dans l'histoire occidentale, qui pourtant a longtemps misé sur la différenciation du politique et de l'économique, la gestion internationale des deux a toujours été intimement mêlée. C'est-à-dire, on a toujours considéré, et depuis le colbertisme, on a toujours considéré que l'un était indissociable de l'autre, et que il ne pouvait avoir d'accomplissement hégémonique qu'en mêlant et en interagissant l'économique et le politique. Alors que le projet chinois, dont on ne sait pas s'il va réussir de ce point de vue, s'il va accomplir cet imaginaire, repose sur une forte dissociation des deux. C'est-à-dire, ce qui nous importe, c'est de faire des affaires. Ce qui nous importe, c'est d'exporter nos marchandises. Ce qui nous importe, c'est subvenir à nos besoins énergétiques et matières premières. Vous savez, les besoins énergétiques de la Chine ont été augmentés dans des proportions que jamais l'histoire n'a connues jusque-là. Donc c'est effectivement une urgence absolue. Mais sans que pour autant cela ait une traduction politique. Ça veut dire quoi, l'absence de traduction politique? Ça veut dire d'abord que lorsqu'on fait des affaires avec un État, on ne regarde pas sa couleur politique, on ne regarde pas ses pratiques, qui peuvent être vicieuses, peu importe. On n'impose aucune conditionnalité politique. Et vous savez que la grande critique que la Chine a apportée à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, c'est le principe de conditionnalité politique. Et lorsque la Chine a créé en Asie sa propre banque, enfin cette banque asiatique d'investissement, mais qui en fait est à capitaux chinois essentiellement, ça a été pour dire, là, vous n'aurez plus de conditionnalité politique. Donc il y a un total découplage du politique et de l'économique. Cher Jean-Jacques, pourrait évoquer le modèle réaliste pur d'un certain point de vue, c'est-à-dire on fait des affaires et peu importe avec qui on fait nos affaires. En Occident, ceci ne se produit pas. Mais si au moins cette fusion des deux aboutissait à une diplomatie vertueuse en Occident, qui par exemple nous interdisait de faire commerce avec des dictateurs, qui, par exemple, nous interdirait de faire commerce avec quelqu'un qui découpe ses ennemis à la scie électrique, on se dirait que ça a un sens et que ce modèle peut être valorisé sur le plan normatif. Là, ce sont des confusions instrumentales, ce ne sont pas des confusions finalisées, en quelque sorte. Donc voilà ce que j'ai voulu dire.
Merci beaucoup.
Alors, on vous demande également une précision de Lyon. De dire ce que vous entendiez par la domination a été coûteuse et peu rentable, par la rentabilité. Je ne sais pas quelle était la part de provocation.
Provocation ?
Ça, c'est moi qui dis. Quand vous parlez de la rentabilité de la domination occidentale, quel type de rentabilité pouvait-on attendre ?
Eh bien, d'abord, on pouvait espérer que cette hégémonie atteigne les résultats qu'elle s'était fixée. Je suis face à un public très averti en matière de stratégie et qui sait notamment qu'une action vaut d'être menée à partir du moment où sa finalité politique est claire et qu'elle se trouve satisfaite par les moyens mobilisés. Quels ont été les objectifs atteints par l'exercice de cette hégémonie occidentale? On peut se poser la question en regardant l'histoire. Alors, évidemment, ce qui est très intéressant dans notre discipline des relations internationales, c'est que cette discipline, elle a été pour l'essentiel constituée en 1945, qui est peut-être le seul moment de l'histoire où, sinon l'hégémonie, du moins une posture de domination a pu apporter du bien à l'humanité en vainquant le nazisme. La génération de ceux qui ont vécu la guerre pouvait sincèrement croire que la puissance pouvait être vertueuse. Parce que là, elle avait accompli un acte qui, effectivement, a été libérateur. Mais posons-nous la question en nous détachant des séquences historiques. Enfin, franchement, la guerre du Vietnam, qu'est-ce que ça a rapporté ? Il y a cette phrase extraordinaire que je cite toujours du grand Chuen Lai, qui disait à Gamal Abdel Nasser: nous, on aime bien la guerre du Vietnam et on voudrait que les Américains envoient le plus possible de troupes pour que le piège se referme sur eux. Mais c'est une vision, de la part de cet homme qui était probablement la plus grande intelligence du XXe siècle, une vision tout à fait révélatrice de ce qu'est la faiblesse de l'hégémonie. Quand je disais tout à l'heure qu'aucune hégémonie n'a pu s'accomplir dans l'histoire, ni Charles Quint, ni Philippe II, ni Louis XIV, ni Napoléon, ni la Pax Britannica, ni les États-Unis n'ont pu véritablement accomplir cette hégémonie, mais que de moyens ont été dispensés pour ça et que de souffrances ont été provoquées. Faisons le bilan de la colonisation, de toutes ces formes d'expansion impériale. On sait les souffrances que ça a impliquées, les coûts humains, les coûts économiques, les coûts financiers. Mais où est le pourboire là-dedans?
Je pourrais rajouter la guerre d'Afghanistan, où beaucoup de gens souhaitaient.
Ah oui, oui, non, mais vous avez beaucoup d'eau à porter à mon moulin, parce que finalement, si les États-Unis ont tiré un certain profit de leur capacité de vaincre l'île de Grenade en 1983.
Alors, d'autres questions de la salle? Monsieur, au cinquième ou sixième rang.
Oh, c'est plus que... Ah.
Là.
Puis après, il y a un monsieur un peu plus haut. Monsieur. Ah, voilà.
Oui, bonsoir. J'ai quand même une question à vous poser. Vous avez cité tout un tas de choses qui donnent la définition de l'Occident, mais il y en a une que vous n'avez pas citée, c'est quand même la démocratie. Je suis désolé, sur les 193 pays... Combien de pays démocratiques a-t-on dans le monde? C'est d'ailleurs ce que je regrette. Mais ils sont quand même la plupart du temps en Occident. Ils ne sont pas en Afrique, ils ne sont pas pour l'instant... La Chine, bon, ben, j'ai voyagé en Chine, je les trouve merveilleux d'un point de vue économique. Ils ont réussi quelque chose de fantastique. Mais je ne voudrais pas y vivre. Bon, franchement, je ne voudrais pas y vivre. Les gens bossent comme des... J'ai vu des gens, des centaines de gens avec des marteaux piqueurs, mais ici, ça ne passerait jamais. Enfin, je veux dire, refaire les rues quand il y avait la foire, c'est pas du tout... Et nous avons la démocratie, c'est quelque chose à défendre. Alors, je suis d'accord avec vous. On a essayé de mettre la démocratie dans certains pays, ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, on a reproché aux Américains d'aller en Irak, mais on a fait la même chose en Libye. Donc, de toute manière, on ne peut pas... J'ai compris maintenant qu'on ne pouvait pas imposer, en effet, l'hégémonie démocratique, je dirais. Ça ne marche pas. Mais je veux dire, d'un autre côté, c'est quand même une valeur fondamentale et que nous devons défendre. Voilà.
Mais, monsieur, je comprends ce que vous voulez dire, mais la démocratie en Allemagne dans les années 30, la démocratie en Italie pendant l'entre-deux-guerres, la démocratie en Hongrie pendant l'entre-deux-guerres. Je veux dire, il n'y a pas... Non, non, mais attendez, je vous ai laissé poser votre question, laissez-moi poser ma réponse. Monsieur, il n'y a pas de lien organique entre quelques cultures et le régime démocratique. La démocratie, c'est une invention, une réinvention constante que l'on voit à l'œuvre dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés occidentales, moi, que j'ai vu fonctionner en Inde, que j'ai vu fonctionner au Sénégal, que j'ai vu fonctionner en Afrique du Sud, que j'ai vu fonctionner dans beaucoup de pays, au Japon, là où j'ai vu la démocratie défiée, piétinée, injuriée, non seulement par des dictateurs, et là on pourrait dire que c'est leur seule faute, mais par des opinions publiques. Donc la démocratie, ce sont des moments, ce sont des efforts que l'on ne sait pas toujours soutenir quand il faut, que l'Europe, en tant qu'Union européenne, a été incapable de construire à son échelle. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, je refuse absolument ce lien. Maintenant, et pour le reste, chaque peuple, chaque histoire est porteuse de ses propres efforts. Il y avait un désir très fort de démocratie dans le printemps tunisien, qui a abouti, d'ailleurs, d'un certain point de vue. Il y a eu un très fort désir de démocratie en Égypte, qui a été ensuite piétinée et assassinée par un coup d'État militaire. Mais je veux dire que ce sont des pulsions humaines que de vouloir être respecté, admis dans sa dignité. Ça, ce sont des pulsions universelles que l'on retrouve partout et dans toutes les histoires, mais qui n'ont pas forcément les mêmes opportunités, les mêmes ressources, les mêmes richesses qui leur permettent de se construire. Mais vous savez, s'il y a une culture, s'il y a un espace régional qui a fait beaucoup de mal, énormément de mal, qui a inventé le mal contre les droits de l'homme et contre la démocratie, c'est bien l'Occident. Il faut avoir le courage de regarder ça. Il faut avoir le courage de regarder comment nous avons, dans notre histoire du XXe siècle, assassiné tant de fois, sous tant de formes, les droits de l'homme, les libertés publiques, la démocratie. Alors, il n'y a pas de race supérieure.
Alors, une question de... oui, je pourrais... Alors allez-y, et je poserai après une question.
Merci, professeur. J'ai une question à deux volets. Parlons de la mondialisation. Vous avez dit que, je ne sais pas si c'est le vrai thème, l'immigration ou l'immigration est l'avenir. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Pourquoi ? La seconde question, c'est que vous avez parlé du nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, avant d'y arriver, vous avez parlé du raté de la décolonisation. Est-ce qu'il y a de l'espoir avec ce nouvel ordre mondial qui a en son sein l'ONU ? Merci, professeur.
Le dernier mot, s'il vous plaît.
Est-ce qu'il y a de l'espoir ? Est-ce qu'on peut espérer de ce nouvel ordre mondial qui a en son sein l'ONU, les Nations Unies ? Merci.
Sur l'immigration, alors évidemment, il faudrait être beaucoup plus long. Le premier effet de la mondialisation, qui n'a pas été suffisamment souligné tant par les analystes, les sociologues, que par les politiques. Au contraire, les politiques ne veulent surtout pas ouvrir ce dossier. C'est que les imaginaires sociaux se sont mondialisés. C'est-à-dire qu'il y a une ou deux générations, les imaginaires sociaux étaient des imaginaires locaux ou nationaux. Et dans le rapport entre le Sud et le Nord, jadis, et jusqu'à il y a 50 ans, le pauvre ignorait qu'il y avait des riches sur Terre. Le faible ignorait qu'il y avait des forts sur Terre. Le pauvre ne voyait pas le riche et le faible ne voyait pas le fort. Aujourd'hui, tout le monde voit tout le monde. Et ceci crée quelque chose de tout à fait inédit qui bouleverse les paramètres politiques, économiques et sociaux de notre monde, à savoir la mondialisation de tous les imaginaires. C'est-à-dire que partout où on est en situation de déshérité, on a un imaginaire qui vous projette dans le monde entier, qui sait désigner l'endroit où l'herbe est plus verte. Et donc, il y a une aspiration à bouger qui se traduit dans les courbes par une très lente, très très lente, mais réelle ascension de la courbe des migrants. C'est-à-dire si... Il y a 50 ans, les migrants représentaient à peu près 2,5% de la population mondiale. On en est à 3,3-3,4 aujourd'hui. C'est-à-dire la pente augmente de façon irréversible alors que la répression anti-migratoire qui, par parenthèse, a envoyé depuis 2000 50 000 de nos semblables au fond de la Méditerranée, malgré cette répression qui est connue, qui est sue, ces flux migratoires continuent. Et ces flux migratoires, ce n'est pas seulement la projection d'un imaginaire de quelqu'un qui cherche à se repositionner dans le monde, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui est que nous avons inventé avec la mondialisation le système social le plus déséquilibré et inégal qui ait pu exister depuis Adam et Ève. C'est-à-dire entre un Burundais PIB par habitant et par an 300 dollars et le Luxembourgeois 110 000 dollars, la différence est énorme. Elle défie toutes les inégalités qu'on ait pu connaître au niveau national, mais surtout elle traduit une forme de complet déséquilibre dans la structure en même temps de production et de consommation dans l'espace mondial. Et à mesure que la mondialisation se fera, ce rééquilibrage devra se faire, d'une manière ou d'une autre. Il se fera de manière mécanique, et il peut se faire, contrairement à ce que disent certains entrepreneurs politiques qui ont fait de la migration une marchandise électorale, il peut se faire au profit de tout le monde, c'est-à-dire des sociétés de départ, des sociétés d'accueil et des migrants eux-mêmes. Mais pour cela, il faut avoir une vision projective qu'on refuse d'avoir. Moi, je ne comprends pas. L'Europe a dépensé quelque chose comme 13 milliards d'euros depuis 2000 pour réprimer la migration, pas un centime pour imaginer ce que pourrait être une gouvernance mondiale des migrations. C'est ce vers quoi nous devons aller si nous ne voulons pas essuyer la catastrophe demain. Voilà. Alors, c'est une façon d'entamer la réponse à votre deuxième question. C'est un exemple de gouvernance mondiale qu'il faut mettre en place. Mais, monsieur, il y a de quoi être optimiste, parce qu'il y a plein de gouvernances mondiales qui fonctionnent. Si vous pouvez consommer, voyager, vous déplacer, communiquer, téléphoner, surfer sur Internet, c'est grâce à la gouvernance mondiale qui est active, à quantité de conventions internationales qui marchent. Mais je dirais quelque chose de beaucoup plus fort encore. Si on a pu éradiquer des maladies comme la variole en Afrique, c'est grâce à la mondialisation, c'est grâce à ce formidable travail que fait l'OMS. Si le nombre de ceux qui souffrent de la faim, scandaleusement élevé, 825 millions d'individus aujourd'hui, est néanmoins stable, c'est-à-dire égal à ce qu'il était il y a 50 ans, alors qu'entre-temps la population mondiale a doublé, c'est grâce à la FAO. Un très grand qui a été Kofi Annan, disait « Mais le multilatéralisme, il ne s'accomplira pas dans les rapports de puissance, il s'accomplira comme multilatéralisme social, c'est-à-dire dans cette capacité d'opérer une gouvernance sociale globale du monde. » Mais elle existe, elle est déjà très avancée. Et la mondialisation, moi, je dis toujours à mes étudiants que c'est comme le cholestérol. C'est-à-dire il y a la bonne mondialisation, il y a la mauvaise mondialisation. Et la bonne mondialisation, nous en avons besoin, comme on a besoin du bon cholestérol. Et il suffit de travailler à l'augmenter. Alors, puisque tout à l'heure, j'ai taquiné le président de la République, je voudrais là lui rendre hommage. C'est ce qu'il a dit dans ses deux discours à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2017 et en septembre 2018. C'est ce qu'il annonce pour la tenue du G7 de Biarritz, c'est-à-dire travailler sur les inégalités mondiales. Tout ça, c'est excellent. Simplement, je ne vois pas encore les pistes concrètes. Mais c'est véritablement le chemin qu'il faut suivre. Mais il y a encore du travail, beaucoup de travail.
Alors, une question de Montpellier, cette fois.
Ah, il y a déjà eu Montpellier tout à l'heure.
Mais il y a plusieurs personnes à Montpellier, apparemment.
Ah.
Ça prouve qu'il n'y a pas qu'un auditeur à Montpellier.
C'est une très belle ville, donc ça tombe bien.
Qui demande comment défendre les intérêts de l'Occident sans reproduire les rapports de domination jadis au détriment des autres nations.
D'abord, je ne sais pas s'il y a à défendre les intérêts de l'Occident. Nous avons des institutions qui sont là pour défendre les intérêts nationaux français, si tant est que ce terme puisse être scientifiquement construit. Parce que, vous savez, les intérêts nationaux, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la représentation que l'on a des intérêts nationaux. Et c'est très bien, parce que c'est pour ça qu'il y a des débats politiques et des désaccords et des discussions et des votes au niveau national. Mais, écoutez, moi, je crois que cette idée d'Occident, autant je la comprenais lorsqu'il y avait un danger incarné par le totalitarisme soviétique. Lorsque le général de Gaulle disait l'armée soviétique est à deux étapes du Tour de France de la frontière alsacienne, ça avait un sens. Il y a eu effectivement une alliance de puissances qui d'ailleurs n'était pas véritablement occidentale, parce que l'Occident est un concept géographique qui ne recouvrait pas nécessairement les termes de cette alliance, mais en tous les cas, ça faisait sens. Aujourd'hui, vous savez, Roland Dumas raconte cette histoire que lorsque George H. Bush a voulu maintenir à tout prix l'OTAN, François Mitterrand s'est levé et a dit « Mais ce que vous nous préparez là, c'est la Sainte Alliance. » Bon, qu'est-ce que c'est que la Sainte Alliance ? C'est une alliance qui est auto-centrée et qui n'est qu'au service de valeurs dont on ne voit plus très bien quel est l'exact contour. Est-ce que véritablement on peut faire une carte de l'Occident ? Est-ce que véritablement on peut incarner cet Occident ? Je ne sais pas. Je sais repérer où est la France, je sais repérer où est la Norvège, je sais repérer où est l'Iran. Si un jour on me demandait de faire la carte de l'Occident, on peut demander à ces dames qui sont expertes de cette question, je serais bien embarrassé. L'Occident n'existe dans la tête des gens, mais encore faut-il savoir pourquoi est fait cette tête.
Pour être comme des isothermes, ça peut rétrécir, ça peut s'élargir, c'est pas des cartes définitives.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments aérophagiques dans l'Occident. Vous avez tout à fait raison.
Alors, peut-être une dernière question de la salle. Alors, Général Paris, je vous donne la parole. Attendez le micro, peut-être.
Monsieur le professeur, vous avez à l'origine de votre conférence estimé une discrimination de l'histoire du monde en plusieurs phases, quatre, et la première étant la chrétienté. Mais ce n'est pas là ma question. La césure essentielle n'est-elle pas l'arme nucléaire ? Et tout le reste, sans être méprisant, et tout le reste est secondaire.
Mon général, moi je vous rejoindrai très volontiers. L'arme nucléaire a été l'élément structurant de la bipolarité, de manière extraordinairement géométrique. Mais ce qui est tout à fait remarquable de cette séquence historique, ça a été l'exacte coïncidence entre l'émergence successive des deux superpuissances nucléaires et l'opposition nette de deux systèmes idéologiques. D'ailleurs, l'alignement des planètes qui a favorisé la bipolarité est quelque chose de tout à fait remarquable. C'est-à-dire, en même temps, vous avez totalement raison, cette arme nucléaire qui poussait au campisme, c'est-à-dire à la recherche du parapluie protecteur, donc qui conduisait au regroupement, et un regroupement qui s'est fait binaire, mais cette binarité, non seulement correspondait à l'opposition de deux idéologies, mais la chose était encore plus subtile, chacune de ces deux idéologies pénétrait l'espace de l'autre. C'est-à-dire, l'idéologie socialiste pénétrait l'espace occidental à travers notamment ses partis communistes à l'époque, et le libéralisme pénétrait l'espace soviétique à travers ses dissidents. Donc il y avait un jeu d'équilibre qui correspond à une subtilité que l'histoire a rarement produite. L'élément fondateur, c'est lorsque le 2 décembre 1989, George H. Bush rencontre sur un bateau de guerre en rade de Malte le président de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, et que Mikhaïl Gorbatchev dit à George Bush, qui en est resté bouche bée d'ailleurs, l'URSS ne recherche plus la compétition avec l'Occident. Cette phrase a bouleversé l'histoire du monde. Elle a bouleversé l'histoire du monde parce qu'elle venait complètement dégrader et défonctionnaliser la binarité nucléaire. Et elle ouvrait un champ, c'est ça qui est peut-être le plus remarquable que j'ai essayé de développer tout à l'heure, elle ouvrait un champ d'incertitude qui se développait précisément hors de ces espaces nucléarisés. C'est-à-dire, quand je parlais de ce déplacement du champ de bataille du monde, ce champ de bataille du monde passait des espaces nucléaires aux espaces non nucléaires. Avec un flottement considérable, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on soit parfaitement au point de cette stratégie nucléaire post-bipolaire, mais on voit bien de temps en temps quelques incursions, lorsque George W. Bush avait dit « mais je me réserve le droit d'utiliser l'arme nucléaire contre les terroristes », par exemple. Ou lorsque Donald Trump, aujourd'hui, dit « mais on peut très bien envisager une utilisation de l'arme nucléaire face à des États qui ne sont pas dotés ». Jacques Chirac, à l'île Longue, avait dit quelque chose qui ressemblait un peu à cela. Donc il y a un certain flottement, mais un flottement qui est largement décentré par rapport à la réalité conflictuelle actuelle. C'est-à-dire que personne ne pense pouvoir progresser dans la restructuration et a fortiori dans l'extinction des espaces conflictuels sahéliens ou mésopotamiens par référence à l'usage de l'arme nucléaire. Donc ce découplage qui s'opère entre l'arme nucléaire et la réalité, l'identité conflictuelle du monde actuel, crée cette relativisation des vieilles puissances par rapport au monde du Sud ou au monde des émergents et vient en quelque sorte dévaluer cet attribut que l'on croyait à tout jamais l'attribut suprêmement décisif, qui était l'attribut nucléaire dans la qualification de ceux qui ont le pouvoir au sein du monde actuel.
Nous approchons de la fin de cette conférence. Il ne reste qu'à remercier Bertrand Badi. Et moi, je vous dis également merci de vos questions, d'être présent, d'avoir rempli l'amphithéâtre. Je pense que vous avez rempli votre contrat. Et je vous dis à la prochaine fois, mois d'avril.
Merci, un grand merci. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette soirée. J'ai beaucoup apprécié de constater que personne ne sortait pendant que je parlais, ce qui, dans la profession qui est la mienne, est la meilleure des récompenses. Merci beaucoup.